Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Londres à la City, Édimbourg, ses incubateurs. La sublime ville du nord de l'Écosse s'est taillée une belle réputation auprès des start-up puisqu'elle a été élue en 2016 ville entrepreneuriale de l'année, dépassant donc la capitale du Royaume-Uni. Il faut dire qu'avec deux licornes, c'est-à-dire des start-up valorisées à plus d'un milliard de dollars, la ville a désormais un catalogue impressionnant, notamment grâce à des incubateurs innovants comme Codebase, qu'a visité Marie Billon.
Juste au pied de la colline sur laquelle trône le château d'Édimbourg se trouve un vieil immeuble qui ne paie pas de mine, en pierre grise et beige délavée. C'est pourtant ici qu'est née et a grandi l'une des deux licornes de la capitale, FanDuel, une entreprise spécialisée dans les paris sportifs virtuels.
I'm here to see Stephen Ross.
Une fois les portes franchies, ce n'est pas une décoration ultra moderne qui nous saute aux yeux, style pourtant souvent propre au bureau des startups.
Hi, I'm Stephen. I'm 43.
Stephen est le chef de la stratégie de Codebase. Il est lui-même un ancien entrepreneur.
La réception, c'est très important. C'est ici qu'on accueille, mais c'est aussi la première étape de la construction du concept de notre communauté. Comme vous le voyez, la décoration est très basique. Ça s'inspire de l'idée de produit minimum viable. Nous encourageons les startups à adopter cette approche. Créer un produit ou un service très simple avec le minimum de fonctionnalités. Le lieu reflète cela car nous essayons de réduire les coûts pour, là encore, coller au principe de l'entreprise sans gras.
Le strict minimum donc pour ne pas s'éparpiller et jeter l'argent des investisseurs par les fenêtres. C'est grâce à cette approche que Codebase s'est créé une réputation de sérieux. Les startups en puissance qui voudraient avoir leur bureau ici sont sur une liste d'attente. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, dit Steven en ouvrant la porte de la première salle. Première étape à passer pour les futurs locataires.
Ici, c'est un peu bruyant. C'est l'espace hot desking. Il y a un café, une table de ping-pong, les accessoires classiques des startups. C'est funky, mais toujours minimaliste. Chacun peut payer 10 livres la journée ou 50 livres le mois pour venir travailler ici avec son ordinateur, sur ses projets, rencontrer des gens, sentir l'atmosphère start-up, voir si c'est pour vous.
Les candidats enthousiastes doivent ensuite être acceptés par l'équipe de Codebase et justement, on croise Oli Littlejohn dans les couloirs, le responsable de la communauté.
Nous avons trois critères principaux. Ces start-up doivent être spécialisées dans les nouvelles technologies. On apprécie que l'un des cofondateurs soit un technicien, donc il puisse construire le produit. Et enfin, on cherche des gens qui partagent nos valeurs et qui veulent faire partie de la communauté. Ici, ce n'est pas simplement un immeuble qui héberge des entreprises. Nous offrons du soutien, du mentoring, des conseils, un accès à des investisseurs. L'important aussi, c'est que chacun apprenne les uns des autres. Nous organisons des rencontres entre des gens qui travaillent dans le même domaine.
Une fois qu'une start-up est acceptée, elle a accès à l'espace de coworking, un endroit silencieux où les méninges s'échauffent. Et les start-ups qui décollent peuvent ensuite avoir accès aux étages où se trouvent les bureaux individuels. Codebase fait tout justement pour qu'elle gagne en traction, comme on dit dans le jargon.
My name is Jamie Coleman.
Jamie Coleman est le cofondateur et désormais président de Codebase. C'est dans son bureau qu'il reçoit des business angels, des investisseurs pour ses startups. Un argument de choix, la vue imprenable sur la colline et le château d'Édimbourg, très utile pour impressionner les investisseurs américains, dit-il dans un sourire.
Pendant longtemps, c'était difficile parce qu'il y avait cette idée qu'une fois qu'une startup décollait, il fallait bien l'emballer et l'envoyer à Londres. C'était la condition pour avoir accès à des capitaux étrangers. Ça restera toujours vrai dans une certaine mesure. Mais en vérité, c'est que où que vous soyez sur la Terre, vous recevrez de l'argent d'investisseurs si vous avez monté une compagnie qui s'épanouit. Édimbourg est intéressante parce que c'est une petite ville au niveau mondial, mais c'est une ville internationale, une belle ville qui a une longue histoire dans le domaine de l'invention.
Sur les étagères derrière son bureau, Jamie a notamment un livre sur la Renaissance écossaise. Cette période d'effervescence intellectuelle du 18e au début du 19e siècle, mené par des grands noms comme l'économiste Adam Smith, le philosophe David Hume ou le poète Robert Burns. Codebase veut faire partie de la Renaissance écossaise 2.0. Dans la petite cuisine commune, juste à l'extérieur du bureau de Jamie, Laura est en train de se faire un café. Elle travaille pour GetCommerce, une société de e-commerce. Laura est arrivée d'Espagne il y a 8 ans, et même si elle a quelques plaintes concernant la météo, Édimbourg reste sa ville idéale.
L'équilibre vie-travail est très bon ici, bien meilleur que chez moi en Espagne. Et Édimbourg est l'un des plus beaux endroits du Royaume-Uni. J'ai entendu dire que c'était la ville où on s'installe si on n'a pas une âme citadine et qu'on préfère la campagne. Elle est grande et beaucoup de choses se passent, mais pas trop non plus.
La qualité de la vie, c'est aussi l'un des arguments de l'équipe de Machines with Vision, qu'on va voir dans ses locaux situés au premier étage. Parmi les cofondateurs, on trouve Jan Vesnitzer, un ingénieur et scientifique allemand, et Tim Luckins, un écossais. Ils ont créé un système de GPS qui scanne le bitume des routes pour se localiser, plutôt que de recevoir les données des satellites. Tim est fraîchement rentré de Berlin, car la start-up vient de recevoir une bourse de Deutsche Bahn, les chemins ferroviaires allemands. Machines with Vision est une start-up qui monte, mais qui reste fermement ancrée à Édimbourg.
Il y a un vrai écosystème de la tech ici, notamment grâce à l'université d'Édimbourg. D'accord, ce n'est pas Londres, mais c'est facile d'y aller, comme partout ailleurs en Europe. Toi, Yann, tu as vécu à Londres, non? La vie était chère là-bas, c'est ça? En fait, il faut choisir si on veut être basé à Londres ou s'y déplacer. Pour nous, Édimbourg, c'est super parce que tout est moins cher et que la qualité de vie est excellente.
Évidemment, tout cela, déplacement, recrutement, accès aux investissements, peut être compliqué par le Brexit. À Édimbourg comme à Londres, c'est l'incertitude. Mais Codebase ne revient pas sur ses ambitions européennes. Steven et Jamie pensent à monter 4 incubateurs en France. De quoi donner un coup de pouce aux startups des deux côtés de la Manche si elles se retrouvent séparées par les frontières de l'Union européenne.
Reportage à Édimbourg, signé Marie Billon. C'est aujourd'hui qu'on commémore en Bosnie le 22e anniversaire du massacre de Srebrenica. 8000 hommes massacrés par les milices serbes en 1995. On retrouve notre correspondant dans la région, Laurent Gélin. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Cette journée du souvenir alimente encore des tensions entre les dirigeants des différentes communautés et la manifestation est loin de faire l'unanimité parmi les Serbes de Bosnie.
Oui, en effet, la grande majorité des Serbes de Bosnie-Herzégovine veulent surtout tourner la page sombre des guerres des années 90. Ils souhaitent habiter dans un État qui leur offre le moyen de vivre décemment de leur travail plutôt que d'émigrer massivement à l'étranger. Cette manifestation sert en réalité les intérêts des hommes politiques de toutes les communautés qui se maintiennent au pouvoir depuis plus de 20 ans en agitant les peurs identitaires et les fantômes des années 90. Début juin, le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, a par exemple annoncé que les manuels scolaires édités à Sarajevo et qui évoquent le génocide de Srebrenica seraient désormais interdits dans l'entité. Une déclaration qui consolide les positions des dirigeants bosniaques et croates qui peuvent à leur tour mobiliser leurs communautés respectives. Dragan Čović, le chef du principal parti croate de Bosnie-Herzégovine, réclame ainsi avec de plus en plus d'insistance la création d'une troisième entité sur les territoires occupés par les forces croates à la fin des combats en 1995.
Merci Laurent Gélin, à très bientôt. La ville de Dublin est-elle une escroquerie? On parle cette fois de tourisme. La capitale irlandaise souffre d'une mauvaise réputation. Trop cher, disent les experts, qui louent par ailleurs la nature sauvage et les petits villages de pêcheurs du reste du pays. Alors, faut-il dépenser beaucoup pour visiter Dublin? Pas forcément, nous explique sur place Julien Lagache.
Oui, la pinte de bière ou de cidre peut coûter plus de 7 euros. Oui, les restaurants, les transports et les hôtels ne sont pas forcément donnés. Mais Dublin n'est pas qu'une capitale onéreuse. Il y a des bonnes surprises si l'on sait où regarder, affirme notamment l'Irish Times, le quotidien de référence. En parallèle du choix pléthorique de restaurants ou de pubs traditionnels où l'addition peut être salée, s'est développée en effet une offre intermédiaire plus contemporaine depuis la crise. Ainsi, pour moins de 15 euros, on peut s'installer au Fumbly Café, un lieu aux allures de vieil entrepôt qui rappelle le passé industriel du quartier de Newmarket. On y trouve une cuisine tournée vers le bio, le local, l'original, symbole d'un Dublin qui se réinvente. Dans le même esprit, jeune et festif, le Bernard Shaw est le pub à visiter sur Richmond Street. Devenu incontournable en quelques années, il draine une clientèle variée selon qu'on s'y trouve pour le brunch du week-end, un café en journée ou en soirée pour une pinte, et il abrite notamment dans sa cour un ancien bus à Impérial reconverti en pizzeria. Jamais bus immobile n'avait vu autant de gens se presser pour s'y asseoir le temps d'un voyage uniquement gustatif. Mais d'autres appétits peuvent être satisfaits en dehors des nombreux bars et coffee shops. Les assoiffés de culture et de patrimoine peuvent en profiter sans se ruiner en visitant gratuitement les jardins botaniques, le musée national d'archéologie ou la National Gallery récemment rénovée. Comme les bus sont chers et que la ville s'apprécie mieux à pied, on peut aussi télécharger l'application mobile Dublin Discovery Trails. Elle propose des parcours à thème pour devenir son propre guide à travers le passé viking ou révolutionnaire de Dublin. Et puis de marcheur à promeneur, il n'y a qu'un pas. Or quoi de mieux que l'immensité de Phoenix Park pour se balader, profiter de la vue sur la ville en contrebas et croiser des daims qui gambadent non loin de la demeure du président irlandais. Ou si l'on préfère la mer, direction le Great South Wall, une longue jetée de plus d'un kilomètre qui s'avance dans la baie de Dublin et borde l'entrée du port. De là, on aperçoit toute la côte alentour, de la péninsule de Howth au nord à la marina de Dunleary au sud. Bol d'air garanti sans débourser un seul centime.
En plein marasme de la filière textile en France, une coopérative tente de valoriser la laine dont les cours n'ont jamais été aussi bas, 40 centimes d'euros le kilo, les prix les plus faibles observés en 30 ans. Dans le sud de la France, en Ardèche, Ardelaine va à rebours des prix bas et vend des vêtements et des matelas haut de gamme. Le reportage de Laurent Berthaud commence donc forcément par la tonte du mouton.
C'est la plus grosse journée de l'année pour Olivier Esric, éleveur de moutons près de Sainte-Eulalie, village du plateau ardéchois à plus de 1200 mètres d'altitude. En ce début d'été, aidé de deux autres éleveurs, il doit tondre 250 bêtes.
Donc là, vous avez commencé à quelle heure ce matin ?
Le premier tondeur a dû arriver à 6h30 par là.
Jusqu'à quelle heure ?
On en a pour jusqu'à 20h, si tout va bien.
Depuis 25 ans qu'il exerce, Olivier a toujours vendu la laine de ses moutons de race Île-de-France à la coopérative Ardelaine, comme 200 autres éleveurs alentour.
Là, aujourd'hui, vous allez récolter combien de laine à peu près ?
Une tonne.
C'est constant comme chiffre ? Une année sur l'autre ?
Non. Si l'hiver est froid, on a un peu plus de laine. Et la laine, c'est vrai que ça part tout à Ardelaine.
Ils ont un prix d'achat aussi assez intéressant ?
Oui, parce que c'est un croisement de mérinos. Et des croisements de mérinos, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des laines qui sont assez longues et qui sont plus faciles à travailler pour eux.
Donc ça, c'est un sacré débouché quand même.
Un débouché sûr, stable dans les prix. Avec Ardelaine, on a le choix de plusieurs paiements. Où on a un paiement en espèces, où on a un paiement en ce qu'on appelle un bon d'achat. Pour nous, c'est sympa, quoi.
Savoir où termine votre laine ?
Oui, bien souvent sur notre dos.
C'est à une heure de route, à Saint-Pierreville, que la société coopérative a été créée en 1982 sur les ruines d'une ancienne filature abandonnée, comme six autres ateliers le long de la rivière, tous concurrencés par les textiles synthétiques. À cette époque, les éleveurs préfèrent jeter la laine que de la vendre à perte. Pourtant, une équipe de 7 volontaires enthousiastes croit à la relance d'une filière laine. Ils retapent l'atelier et récupèrent des machines datant pour certaines du début du XXe siècle, des machines qui tournent encore aujourd'hui. Baptiste les connaît bien, il est chargé de les entretenir, mais pas seulement.
Là, je suis en train de carder la laine pour les matelas. C'est débarrasser les poussières, l'aérer, lui donner du gonflant.
Les matelas et les articles de literie, ce sont depuis l'origine les produits phares d'Ardelaine, déclinés dans toutes les tailles et tout type de confort. Nadia Zafouri en charge de la communication.
Voilà, la laine dans la literie, c'est très particulier. C'est quelque chose sur lequel on a dormi pendant des siècles. Et puis ça s'est perdu avec l'arrivée du synthétique, la fabrication industrielle. Un matelas de laine, on peut pas le fabriquer de façon industrielle. C'est un travail artisanal de fait. Et dans les années 80, quand Ardelaine a voulu relancer les matelas de laine, ça a été un petit peu un challenge parce que personne n'y croyait. Et en même temps, on est 35 ans, 40 ans après et on a vraiment un retour à des matériaux naturels. Ça, tout le monde le sait. Donc en fait, il faut savoir que dans un matelas de laine, on n'a ni chaud ni froid, on est bien, on est à température ambiante. Comme ça régule l'humidité et que ça fait des échanges avec l'extérieur, c'est très sain. L'autre avantage de la laine, c'est que ça se recycle, on le refait et vous repartez pour 10 ans.
Aujourd'hui, 4 à 5 personnes travaillent à l'atelier des matelas sur la soixantaine de postes déjà créés. Avec une particularité propre à cette société coopérative, chacun gagne le même salaire, 1100 euros, sauf les cadres, 1300 euros. Et surtout, tout le monde tourne sur les différents postes, comme Sonia, qui travaille ici depuis 16 ans.
Je suis en train de faire des petits chaussons pour les enfants, en feutre. On découpe tout à la même, puis après on finit le montage sur les machines. J'ai été formée sur plusieurs machines, plusieurs techniques, parce qu'il y en a qui surjettent, il y en a qui biaisent, il y en a qui piquent. Voilà, puis travail manuel aussi, faire les couettes, remplir les oreillers. En fait, il faut se former à chaque étape. Et puis on essaie d'être le plus polyvalent possible.
Et les compétences ne cesseront jamais de s'étendre, car Art de Laine recherche toujours de nouveaux débouchés, comme par exemple du feutre de laine pour pailler les cultures ou pour remplacer le plastique utilisé en agriculture. Dès les années 80, le succès d'Art de Laine a permis de mettre un frein à l'exode rural. La population de Saint-Pierreville s'est stabilisée avant de remonter légèrement. Gérard Barras, l'un des fondateurs de la coopérative.
Tout le monde partait vers la vallée du Rhône, forcément. Et maintenant, ça s'inverse, hein, parce qu'il y a moins d'emplois. Et puis, la ville brille moins qu'elle brillait quand nous, on a commencé. Ce qui fait que maintenant, il y a des gens qui viennent travailler chez nous qui font une demi-heure de route, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est des phénomènes. En fait, nous, on fait de la restructuration par rapport à ces territoires qui sont quand même peu habités, quoi. Voilà.
La commune de 500 habitants compte toujours une école de 40 élèves, un bureau de poste, une gendarmerie et même un centre des impôts. Et chaque année, 2000 touristes et curieux y passent pour aller visiter l'atelier, la boutique, le musée et la librairie d'Art de Laine.
Andrei Zviagintsev ne laisse personne indifférent. Le réalisateur russe a obtenu le prix du jury du 70e Festival de Cannes pour son dernier film « Faute d'amour ». En Russie, où il est en salle depuis un mois, le long métrage propose un regard âpre sur la société contemporaine. Zviagintsev filme l'histoire d'un couple moscovite en pleine séparation dont le jeune fils est soudainement porté disparu. Singulier et universel aussi, à Moscou, Étienne Bouche.
Faute d'amour n'est pas un film aimable. Andrei Zviagintsev y met en scène des personnages égoïstes, immatures, habités par la frustration et le ressentiment. Des personnages incapables d'aimer. Les deux héros, Genia et Boris, font partie de la classe moyenne moscovite. Leur divorce est un cauchemar. Chacun veut refaire sa vie, et de préférence sans Alyosha, le fils né de cette union sans amour. Un matin, après son petit déjeuner, Alyosha prend son cartable et disparaît. Genia et Boris espéraient se séparer au plus vite, tourner la page, ils se retrouvent contraints d'assumer leurs responsabilités. Le cinéma d'Andrei Zviagintsev reflète-t-il la réalité? Force-t-il le trait dans sa description de la Russie actuelle? Ces questions avaient déjà alimenté les débats à la sortie des deux films précédents. Dans Elena et Léviathan, Zviagintsev filmait la corruption morale. Le regard est tout aussi âpre dans Faute d'amour. Certains lui reprochent de faire du cinéma d'exportation, de donner une image de la Russie qui serait conforme aux attentes du public étranger. Une critique que lui avait faite d'ailleurs le ministère de la Culture. Que les films de Zviagintsev soient longtemps débattus après leur projection, c'est la preuve que le cinéaste fait mouche. Il est difficile de ne pas voir dans ce film un diagnostic de notre société. C'est ce qu'a écrit le tabloïd Komsomolskaya Pravda à propos de Faute d'amour. Le réalisateur se défend toutefois de voir tout en noir. Il a expliqué à Cannes que son film était aussi un hommage à tous ces bénévoles qui consacrent leur temps à la recherche des personnes disparues. Zviagintsev est un observateur précieux de son pays. Mais s'il est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs russes contemporains, c'est aussi parce que son cinéma aborde des questions universelles, comme le faisaient en leur temps les grands romanciers russes.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.